Philippe, 24 janvier 1984, Saint-Joseph.
Nous allons essayer de comprendre. Une des démarches les plus difficiles au point de vue philosophique à comprendre et que je crois cependant très importante, ce qu'on appelle l'induction, l'épagogé en grec. Il faut essayer de saisir comment, après l'interrogation, on revient à la réalité expérimentée avec une orientation très nette, l'orientation de l'interrogation. L'interrogation implique une orientation. On veut savoir ce qu'est l'être. Vous voyez bien. Qu'est-ce que c'est que ce qui est ? Qu'est-ce que c'est que l'être ? Donc là, il y a une orientation. L'intelligence n'est plus uniquement une intelligence ouverte, comme elle l'est dans l'expérience. Quand je suis devant l'expérience, je n'ai aucune idée préconçue. Je regarde un animal que je n'ai encore jamais vu. Je regarde une physionomie que je n'ai encore jamais connue. Je dis, tiens. On a une expérience, c'est comme ça qu'on le fait, vous. Le laboratoire de la vie commune. Alors on voit des têtes nouvelles, on voit des physionomies nouvelles, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Une fois que vous interrogez, vous avez quand même une orientation. Cette orientation, elle vient de l'expérience, elle n'est pas une orientation a priori. L'interrogation n'est pas un a priori. Puisque ça présuppose l'expérience. Mais c'est une orientation, c'est une détermination déjà. L'intelligence pose qu'est-ce que c'est que l'être. Donc, elle laisse tomber le ceci, la vache, le chat, moi-même, rien d'autre. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Donc, elle est orientée. Et c'est le propre de l'interrogation. Mais c'est comme une hypothèse. Une hypothèse implique une orientation. C'est pour ça que je crois que l'interrogation, c'est l'hypothèse, c'est la méta-hypothèse. C'est l'hypothèse dans ce qu'elle a de plus fondamental. Toute hypothèse présuppose une interrogation. Et l'hypothèse, au niveau fondamental, au niveau philosophie première, c'est l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Ça, ce serait intéressant. Je ne crois pas que ça ait été fait comme travail, de voir le lien entre l'interrogation et l'hypothèse. Parce que l'hypothèse scientifique, tout le monde connaît, tout le monde sait. Et l'hypothèse scientifique oriente. Quelqu'un qui a une hypothèse sait très bien dans quel sens il cherche. Tandis que s'il n'a pas d'hypothèse, il ne sait pas comment chercher. Il va un peu au hasard. Il y a des découvertes qui se font comme ça, ça c'est très vrai. Mais normalement, la découverte se fait à partir d'une hypothèse. On essaie de voir et on est là, on attend, attentif pour voir. Eh bien, l'interrogation, c'est cela. L'intelligence, donc, revient dans une orientation et elle revient à la réalité expérimentée pour saisir dans cette réalité expérimentée ce qui est interrogé. L'orientation même qui est donnée dans le contenu de l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors, c'est à ce moment-là où l'intelligence induit, découvre, dévoile, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, au-delà de la réalité expérimentée, ce qu'elle cherche. Quelquefois, elle ne le trouve pas. Si vous n'avez pas une intelligence suffisamment pénétrante, vous ne découvrez rien. Et ça, c'est chacun d'entre nous. C'est l'aspect subjectif. C'est l'aspect de la subjectivité transcendantale de l'intelligence. je peux dire que c'est là où on saisit la vitalité d'une intelligence. Il y a des intelligences qui ont une vitalité plus ou moins grande. Ça, c'est un fait. On ne peut pas les mettre tous dans le même sac. Il y a des intelligences qui aiment la recherche et des intelligences qui n'aiment pas la recherche. C'est trop fatigant. Alors on s'assied avant. On attend que le gibier tombe là, juste à vos pieds. Tandis qu'il y en a qui le cherchent. L'induction, l'interrogation, c'est le chien en arrêt pour découvrir que dans le buisson, il y a un beefsteak. Il y a un gibier là derrière. Il y a un lièvre qui est là derrière. On sent. Il y a du flair. Puis on est là en arrêt. Puis dès qu'on est en arrêt, on le saisit. C'est ça l'induction, hein, symboliquement parlant. C'est une intelligence qui est en arrêt grâce à l'interrogation. Je suis mobilisé par l'interrogation, je suis en arrêt par l'interrogation. Et je me demande qu'est-ce que c'est que l'être. Je reviens à la réalité expérimentée, je sais que la réalité expérimentée est complexe, mais dans cette réalité expérimentée, il y a ce que je cherche. Ce que je cherche est présent dans cette réalité expérimentée. Vous allez me dire pourquoi vous êtes sûr. Mais oui, parce que mon interrogation provient de mon expérience. Et donc je sais qu'il y a cela. Et c'est pour ça que j'attends. Je suis en attente. L'interrogation nous met en attente, donc en recherche. Et nous essayons de secouer cette réalité expérimentée de diverses façons pour trouver l'aspect sous lequel on pourra découvrir ce qu'on cherche. Et ce qu'on cherche, quand on interroge, c'est justement ce qu'il y a de premier. Premier dans l'ordre de la forme, premier dans l'ordre de l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Il faut bien trouver ce qu'il y a de radical dans l'être. Si je ne découvre pas ce qu'il y a de radical dans l'être, ce qu'il y a de premier dans l'être, je ne découvre pas l'être. Je découvrirai des choses secondes. Mais quand je pose « qu'est-ce que c'est que l'être ?», je veux découvrir ce qu'il y a de premier. Vous voyez, le « qu'est-ce que c'est ?» veut toujours saisir ce qu'il y a de premier. Parce que si je saisis ce qu'il y a de second dans l'être, ce n'est pas l'être. Donc « qu'est-ce que c'est ?» veut saisir ce qu'il y a de fondamental et de premier. Ça, c'est très important. L'interrogation m'oriente vers le principe. Parce que l'intelligence, intus legere, lire de l'intérieur, l'intelligence ne se contente pas de l'apparence. L'intelligence veut aller au-delà. Elle veut être sûre d'atteindre ce qu'il y a de primordial, de premier ou d'ultime. Les deux se touchent. C'est cela que l'intelligence cherche. C'est cela que l'intelligence veut saisir. Quand elle interroge, mais quand elle n'interroge pas les tourpeaux, alors elle reçoit n'importe quoi. Mais quand elle interroge et qu'elle se pose qu'est-ce que c'est que l'être, dans l'interrogation même, elle veut aller jusqu'au bout. L'intelligence est exigeante, hein, c'est l'exigence de l'intelligence. Et quand on a fait un peu l'expérience d'une recherche intellectuelle, on sait que l'intelligence elle-même dirige la recherche, c'est pas autre chose. Alors c'est là où je découvre progressivement ce que c'est que cet appétit naturel de l'intelligence à l'égard de la vérité. Et ça, je le découvre à l'intérieur même de ma vie intellectuelle. Mais il faut bien comprendre ça, ça se découvre progressivement. C'est comme on découvre progressivement l'amour. Quelqu'un qui n'a jamais aimé, il ne sait pas ce que c'est. Et quelqu'un qui commence à aimer, il sait très bien ce que c'est. Et il découvre qu'il y a là quelque chose de fondamental, et dans la mesure où il aime, il veut aller jusqu'au bout. C'est très curieux. Pourquoi il devrait s'arrêter? Pourquoi il veut aller jusqu'au bout? L'esprit est ainsi fait. Que l'esprit veut aller jusqu'au bout, aussi bien du côté de l'intelligence que du côté de l'appétit. Vous voyez, c'est ce que Feuerbach dit, il y a dans l'intelligence, et je cite Feuerbach, parce que ça fait bien, n'est-ce pas ? Il y a dans l'intelligence et la volonté un appétit infini. Il n'y a pas que lui qui a dit ça. Aristote l'a dit avant, mais c'est moins impressionnant pour Aristote, tandis que Feuerbach, c'est plus impressionnant. Alors, ça met plus en éveil. Il y a un appétit infini dans l'intelligence et la volonté. Et Aristote avait dit la même chose, c'est que l'intelligence cherche la vérité. La première fois, on a dit que l'intelligence cherchait la vérité, hein, au point de vue philosophique. C'est vieux, c'est Hésiode. C'est Hésiode qui a dit que l'intelligence cherche la vérité. Et quand on dit que l'intelligence cherche la vérité, on veut dire que l'intelligence veut aller jusqu'au bout. Intus legere. Ce qui est intéressant dans l'interrogation, vous voyez, c'est que l'intelligence est parfaitement elle-même. Elle n'est pas encombrée. Elle est encombrée lorsqu'elle expérimente quelque chose. Alors elle est encombrée des sensations, elle est encombrée de l'imagination, elle est encombrée d'une quantité de choses qui ne sont pas l'intelligence. Mais quand l'intelligence interroge, c'est l'intelligence elle-même. Et donc c'est là où je saisis l'appétit profond de l'intelligence. C'est pour ça que nous devons être très attentifs aujourd'hui à ce que représente l'interrogation. Je crois ça très très important. La scolastique avait supprimé l'interrogation. Cherchez dans la bonne scolastique décadente, n'est-ce pas ? Ça glisse, mais vous n'interrogez jamais. En interrogeant, vous voulez remonter à la source. Tandis que sans interroger, vous glissez. Et quand on glisse, on ne remonte pas à la source. Il faut des pots de phoque pour remonter à la source. N'est-ce pas ? Mais autrement, on glisse, et puis c'est tout. On dérape. Tandis que quand l'intelligence interroge, l'intelligence reprend toute sa vitalité. Et la vitalité de l'intelligence, c'est de remonter toujours le plus loin possible, à la source. Elle veut ça. Vous allez me dire, mais pourquoi ça, l'intelligence est-elle comme ça ? C'est vrai, c'est très curieux ça. C'est quand même intéressant de voir ça, cette espèce d'appétit de l'intelligence, de vouloir remonter à la source. Alors, je dirais, faites l'expérience d'un petit secteur où vous êtes intelligent. Il y a des secteurs où vous êtes intelligent. Il s'agit de l'art, qu'il s'agisse de la prudence, qu'il s'agisse de l'amour d'amitié, qu'il s'agisse du travail. Il y a des secteurs où vous êtes intelligent. Ou si vous avez fait de la médecine, il y a des secteurs où vous êtes intelligent. Vous voulez remonter le plus loin possible. C'est le propre de l'intelligence. On veut découvrir toujours plus loin. Et quand on s'arrête, on n'est pas satisfait quand on sait qu'on peut aller plus loin. On n'est pas satisfait. Notre intelligence n'est pas satisfaite. Notre intelligence ne se repose pas. Notre intelligence continue d'interroger. Le propre de l'intelligence, c'est de remonter à la source. Peggy dit ça admirablement sans être philosophe. C'est pour ça que j'aime Peggy. Parce qu'il a dit ça. Il faut remonter à la source. L'intelligence remonte à la source. Un être intelligent, c'est celui qui remonte à la source. Un être peu intelligent, se contente des hauts plateaux, se contente du fossé, se contente des œillères ou des ornières, se contente de ça. Un être peu intelligent, un être intelligent ne veut pas rester là. Alors, essayez de comprendre vous-même, quand votre intelligence est éveillée, ce que vous faites comme démarche. Vous voulez remonter à la source. Et remonter à la source, c'est justement ne pas s'arrêter en chemin. Et ne pas vouloir s'arrêter en chemin. C'est vouloir aller toujours plus loin. Vous voyez, c'est l'interrogation qui m'empêche de m'arrêter. C'est pour ça que c'est si important. Il n'y a pas d'induction s'il n'y a pas d'interrogation. C'est l'interrogation qui me permet, qui m'exige d'aller toujours plus loin et de remonter à la source. Ça, c'est très important de comprendre ça. Parce que ça, c'est le dynamisme même de la vie de l'intelligence. Donc, c'est l'appétit de l'intelligence. L'interrogation met l'intelligence en acte d'appétit. Elle est un appétit en acte, l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors, c'est pas en interrogeant indéfiniment que je vais découvrir. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors, si je réfléchis, il faut revenir à la réalité. La réalité, c'est moi. La réalité, c'est toi. L'arrêté, c'est la vache. C'est n'importe quoi. C'est toutes les réalités. C'est ça l'avantage du philosophe. Son laboratoire, c'est l'univers. Alors, il est toujours chez lui. Et quand il est en face de gens plus ou moins intelligents, il se retrouve encore chez lui. Mais il fera vite le tour, n'est-ce pas ? Et puis, il s'arrêtera et puis il saura où il doit aller. Parce que c'est encore l'intelligence de savoir où on doit aller pour découvrir. Alors, il doit monter, remonter toujours à la source. L'intelligence interroge qu'est-ce que c'est que l'être et elle revient à la réalité. Au ceci, à moi. Qu'est-ce que je suis dans mon exister ? Qu'est-ce que c'est que mon exister ? Qu'est-ce que c'est ? Pas mon exister, mais l'exister en moi. La formule si belle d'Aristote, le to einai anthropo, l'être à l'homme. C'est très beau comme expression. Qu'est-ce que c'est que l'être à moi ? Pas mon être. Déjà, je resterai dans mon étang. Mais qu'est-ce que c'est que l'être à moi ? Il est présent en moi, il est présent en toi, il est présent dans la vache, il est présent partout. Mais qu'est-ce que c'est que cet être présent ? J'interroge. Et je reviens à la réalité, j'essaie de saisir. Alors, pour saisir, il faut donc dépasser tous les ceci. Puisque tous les ceci, c'est ce que je saisis directement dans l'expérience. Or, je veux dépasser cela. Je veux donc dépasser toutes les déterminations particulières. L'être à l'homme, l'être à moi, l'être à la vache, c'est ça que je veux. Oui, je reviens un peu à l'un, à ce moment particulier de l'intuition dont parle Maritain. Nous avions situé. Je reviens à ce moment où, dans l'expérience, j'ai saisi que de fait, il y avait quelque chose qui restait commun à toutes ces réalités particulières. Mais je reviens à cela dans une nouvelle lumière. Non pas simplement en le constatant et en étant dans l'admiration. Là, je veux saisir. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors, je dois aller au-delà de tous les ceci, de toutes les déterminations, pour toucher le principe de tous les ceci. Et le principe de tous les ceci, c'est peut-être le principe dans l'ordre de l'être. Je dis peut-être, je ne peux pas dire plus au point de départ, je cherche. C'est ça que je veux que vous compreniez. L'induction, c'est l'intelligence en recherche. Une intelligence qui induit est une intelligence en recherche. Alors, elle saisit ou elle ne saisit pas. Il y a des chasseurs qui, après la chasse toute la matinée, reviennent bredouilles. Et vous ne leur direz pas, vous êtes un mauvais chasseur. Vous leur direz, mais pas une veille. Maintenant, il pleuvait, le gibier n'était ainsi de suite, on aura toutes les explications possibles, imaginables. Et puis, c'est pas étonnant, cette année-ci, il n'y a pas de gibier, c'est impossible. On s'excusera. Et puis, il y a un chasseur qui viendra avec du bon gibier. Il y a des hommes qui cherchent et qui ne trouvent jamais. Il y a des hommes qui cherchent et qui trouvent. Mais vous savez, quand on n'a pas trouvé soi-même, on est très meurtri quand on trouve à sa place. Mais alors, on a la tentation de dire un mot. Parce que c'est très vrai. Je me souviens très bien qu'avec les psychanalystes, quand j'ai essayé de leur faire comprendre un tout petit peu ce que c'était que l'induction. L'induction, vous êtes sûr, pas de problème. L'induction. Vous êtes sûr de toucher quelque chose? Vous avez cherché toute la matinée. Vous êtes un temps, on est fatigué. Hein. Alors, vous savez, le mirage, hein, on est longtemps dans le désert. Et alors, l'imagination travaillant, elle nous fait pousser quelque chose. Il y a quelque chose. C'est un mirage. C'est l'imagination. Alors, quand vous dites que vous utilisez un principe, est-ce que c'est vraiment un principe? Moi, je ne sais rien, c'est ce qu'il dit. C'est qu'il dit, il dit toujours ça. Est-ce que vous pouvez prouver que c'est un principe? Alors, il dit non. Alors, ça, il est encore plus étonné. Je ne peux pas prouver que c'est un principe. Un principe ne se prouve pas. Il se découvre. Il se découvre. Alors là, on voit combien la pauvre intelligence, quand elle est dans cet état-là, elle est dans un état de pauvreté. C'est juste l'inverse de l'intelligence bourgeoise. N'est-ce pas? L'intelligence bourgeoise, elle a un avoir. Et elle le sait. Et elle l'énumère. Et elle le montre. Et à partir de là, elle met la rhétorique. N'est-ce pas? Et la rhétorique, c'est pour défendre son avoir. Tandis qu'une intelligence inductive, qui découvre le principe, c'est une intelligence qui s'appauvrit. Elle n'est pas rien justifié. C'est une intelligence qui a soif de compréhension. Elle ne contemple pas encore. Mais elle sait qu'elle est sur la voie. Ça, il faut reconnaître. Il y a deux familles intellectuelles. Il y a des familles intellectuelles de pauvres. Et il y a des familles intellectuelles de ceux qui aiment posséder, qui aiment les conclusions, parce qu'on les possède. Alors ils sont uniquement dans l'aspect déductif. Alors l'induction, vous voyez, j'insiste un peu, parce que c'est important de saisir cette attitude profonde d'une intelligence en recherche. Alors, je viens bien, vous voyez bien tous les éléments de l'induction. Puis après, saisissez ce que c'est, ce mouvement. C'est un mouvement, c'est un dynamisme de l'intelligence. L'induction, c'est un dynamisme de l'intelligence. C'est l'intelligence qui, avec son vilebrequin, veut creuser, creuser, creuser et saisir ce qu'il y a de lui. Alors, il y a l'expérience la plus riche possible. Et on a dit avec une espèce d'intuition, une espèce d'intuition, n'est-ce pas ? C'est-à-dire diverses expériences qui mettent bien en lumière le petit commun, ce qui est commun. À partir de là, l'admiration, je mets tout ça parce que c'est important, l'admiration, liée à quelques éléments d'angoisse. Je veux bien. L'admiration liée à quelques éléments d'angoisse, parce que je crois que c'est, ça met le piment, mais à l'admiration. Pas trop, mais quand même. Je suis devant quelque chose qui m'étonne. Et toujours dans l'étonnement, il y a toujours un peu, c'est ce que Rilke dit, dans l'étonnement, il y a toujours un peu une crainte, une peur. Vous êtes en face de quelque chose qui nous échappe, quelque chose qui est plus grand que nous, quelque chose qui nous transcende. Et puis à partir de là, donc, va naître l'interrogation. Alors cette espèce d'appétit d'intelligence, qu'est-ce ? L'interrogation, dans ce cas-là, de plus élémentaire, c'est le tiesti. Je crois que le tiesti, c'est vraiment l'interrogation la plus élémentaire. On pourrait dire qu'il y a le esti est encore plus élémentaire. Mais celle-là ne donne pas naissance à l'induction. Est-ce que cela existe ? Et c'est pour supprimer l'obscurité, un peu le brouillard. Est-ce que ça existe bien ? Alors là, je reviens tout simplement à l'expérience. C'est l'expérience. C'est pour ça que l'esti est une interrogation très fondamentale qui fait revenir tout simplement à l'expérience. Alors, SSI traduisait, est-ce que ça existe ? Est-ce que ça existe bien, ça ? Est-ce que vous êtes sûr ? Est-ce que vous avez sûr d'avoir vu cet éléphant ? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir vu cet animal ? C'est tout en parler. Alors, soit on trace, pour être sûr qu'on soit le lui, il est là. Mais vous avez dit, vous avez SSI. Est-ce qu'il existe ? Vous l'avez vu, vous ? Mais vous ne le voyez plus maintenant. Vous êtes sûr qu'il est là ? Alors, on se passe à trace. résout l'induction, on court après. Et alors dans l'induction, quand on court après, c'est on veut retrouver la trace, et on essaie de trouver la trace, et on retrouve la réalité expérimentée. Cette réalité, c'est extraordinaire, j'ai jamais vu cette réalité. Moi, je me suis pas vu, je me connais, pas besoin de courir après, pas besoin de poser de la SST, est-ce que j'existe? Vous ne posez pas trop souvent la question. Est-ce que j'existe? Tandis que mon voisin, oh, il est tellement curieux. SST, est-ce qu'il existe? Ça, c'est... Dès que je rencontrais des bêtes curieuses, hein, des bêtes curieuses, vous me posez la question, est-ce qu'il existe bien? Je n'ai pas été pris par moi. Alors ça, c'est l'interrogation fondamentale qui, d'une certaine manière, n'est pas une interrogation, c'est supprimer le doute de l'intelligence, pour revenir. Parce que si je me pose la SST, c'est qu'il y a eu déjà une expérience. Hein. Il y a eu déjà une expérience, mais j'ai perdu la trace. Alors, parce que j'ai perdu la trace, pour éviter l'angoisse. C'est pour éviter l'angoisse. C'est au fond ça qui t'intéresse. Parce que je crois que l'angoisse, c'est justement la perte de ce premier contact. Alors la perte de ce premier contact fait que j'ai besoin de le retrouver. Et ça, on voit très bien comment il peut y avoir un doute. Vous voyez, c'est pour supprimer le doute. Alors, je reviens à la réalité. La véritable interrogation, c'est l'interrogation du Christ. Qu'est-ce que c'est que moi ? Qu'est-ce l'être ? Qu'est-ce l'être ou ceci ? Si vous voulez. Qu'est-ce l'être ou ceci ? Qu'est-ce l'être à l'homme ? Qu'est-ce l'être à la vache ? Qu'est-ce l'être ? Peu importe. Hein. C'est qu'est-ce que c'est que l'être ou ceci ? Et ceci, entre parenthèses. Et alors, à ce moment-là, je reviens à l'expérience. Et je reviens à l'expérience dans toute sa richesse. Plus l'interrogation est une interrogation qui va loin. Quand je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est une interrogation qui va très loin. Plus l'interrogation est une interrogation qui va loin, plus il faut revenir à la diversité des expériences. Il ne faut pas se buter sur une seule expérience. Parce que si vous vous regardez seul, qu'est-ce que c'est que l'être en moi ? Pas comme un, parce que vous pouvez être juste. Moi, je vois, je pense, j'aime, je suis passionné, j'ai mal aux pieds. Qu'est-ce que c'est que l'être ? L'être, c'est pas ça. Et l'être est au cœur de tout ça. Tout ça, c'est de l'être. C'est l'être à l'homme. C'est l'être à moi. C'est mon être. Mais c'est pas l'être. C'est pas l'être parce que si je disais que l'être, c'est le mal que j'ai au pied, alors l'être ne serait pas mon intelligence. L'être ne serait pas ma capacité d'aimer. Si j'identifie l'être à mon intelligence, mais alors mon amour n'est plus de l'être. Si j'identifie l'être à ma passion, mais alors l'intelligence n'est plus de l'être. Toute cette diversité qui est en moi, toute cette diversité que je découvre à travers cette expérience, je vois que l'être est au-delà de tous les soucis. Donc de tout ce qui est détermination. L'être ne peut pas être une détermination. L'être ne peut pas être une forme. Oh, c'est très important. L'être ne peut pas être une forme. L'être ne peut pas être une quantité. L'être ne peut pas être une qualité. Ah, vous voyez comment je commence à voir comment on va faire cette recherche. Je rejette tout ce qui m'encombre. Tout ce qui m'encombre, la qualité, la quantité, tout ça, ça m'encombre pour chercher ce que c'est que l'être. Alors, vous voyez bien, ici je me sers de ce qu'on appelle les catégories. Parce que les catégories de Pierre-Aristote sont restées les catégories. C'est une chose, c'est un fait. Je me sers des catégories de penseurs d'Aristote ou d'un autre. Tout simplement, je me sers de toute la table des déterminations. Les catégories, c'est la table des déterminations. Faites votre inventaire. Hein. Faites votre inventaire. Toutes les déterminations qu'ils ont en vous. Il y en a quand même pas mal. La quantité, c'est la plus visible. La figure, les qualités. Vous avez encore comme inventaire. Passion, action. Passion. Comme inventaire, qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez le lieu. Vous avez le temps. Vous avez le situs. Et vous avez, oui, l'habitus. L'habitus, l'adhéré, ce dernier petit prédicament particulier. Vous avez un vêtement. Vous avez un vêtement. Vous avez un outil. Vous avez partie de votre être. Donc vous avez ce qu'on appelle l'habitus, catégorie d'habitus. Qu'est-ce que vous avez oublié? Ah non, tout ça c'est l'accident. Qualité, action, passion, ça c'est le mouvement. Le lieu, le temps, le situs, la dérive. Évidemment, fondamentalement, vous avez la substance, c'est sûr. Et là, c'est le dernier lieu, ça c'est le gros morceau qu'on va attaquer. Peu importe, si vous le retrouvez, vous le retrouverez. Les dix qualités, les dix sens. Quantité, qualité, relation. Relation, très bien. Et c'est important. C'est pour ça qu'on l'a oublié. Parce que c'est celle qu'on connaît le mieux. Maintenant, c'est la relation. Bon. Alors, vous voyez, et vous pouvez faire ça dans cette induction, et vous devez le faire dans cette induction. Si vous ne le faites pas, vous n'écartez pas tout. Vous savez, quand vous voulez rendre un terrain cultivable, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez toutes les grosses pierres. Ici, vous désirez trouver le gibier. Le gibier, c'est l'être. Vous désirez trouver ce que d'habitude vous ne voyez pas. Alors, vous écartez tout. On écarte tout. On écarte la quantité. On écarte la qualité. Et pourquoi vous écartez tout ça? C'est parce que tout ça existe en vous. Tout ça existe en vous. Ça, vous ne pouvez pas nier. Chacun d'entre nous, nous avons les 9 prédicaments. Et il y a le fourre-tout, le capharnaüm. Il y a le fourre-tout. Le fourre-tout, c'est l'habitus. Vous fourrez tout le temps. Vêtements, lunettes, papier, tout, vous fourrez tout. Tout ce que vous utilisez. Alors vous fourrez tout ça. C'est le dernier. C'est très amusant, c'est très très curieux le dernier. C'est celui qui est mis le plus en lumière dans une perspective phénoménologique, et c'est celui qui est le fourre-tout dans la perspective des déterminations. Parce que c'est vrai, votre avis, c'est pas tout à fait vous. Et c'est pourtant vous. Vous savez, quand on fourre-tout les habits dans un coin, vous arrivez à retrouver votre vêtement parmi tous les autres. Je ne sais pas ce qu'il y a, vous le touchez, un chien serait l'odeur, mais tu vois, à découvrir comme ça, mon habit, c'est mon habit, c'est pas l'habit d'un voisin. C'est, oui, momentanément, je peux prendre des souliers du voisin, mais ça va pas. C'est mon habit, c'est quelque chose de particulier. Alors, ce qui est sûr, c'est que je nie toutes ces catégories. Toutes ces déterminations ne sont pas l'être. Ça, c'est très très important de comprendre ça. Toutes ces déterminations ne sont pas l'être. Toutes ces déterminations existent. La quantité existe en moi. Je ne veux pas dire que c'est rien. Je ne veux pas dire que c'est un être de raison, la quantité. Je ne veux pas dire que mes qualités sont des êtres de raison. Pas du tout. Je ne veux pas dire que mon action et ma passion, c'est des êtres de raison. Je bâtis, je balle à la tête. Et on dit, oh, c'est un être de raison, vous n'en avez pas. C'est vous qui imaginez ça. Non, pas du tout. Je bâtis, je peux te dire, je peux être sûr. Oh, il peut y avoir un peu d'imagination, parce que le terrain est humide. Mais au fond, autrement, C'est quelque chose de réel. Et quand vous trouvez le point de vue du lieu aussi, c'est quelque chose de réel. Le temps aussi, c'est quelque chose de réel. Oui, le temps. On s'approche du repas, alors on se met à bailler. C'est pas étonnant. C'est forcé. C'est toujours comme ça. Alors, c'est la fin de la matinée. Mais le temps, ça joue. Ça joue beaucoup, ça. Quand on a travaillé 3 heures ou 4 heures, ça joue pas mal. Ce n'est pas l'être. Ce ne sont que des modes de l'être. Ce sont des déterminations de l'être, mais ce n'est pas l'être. Quand je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être, je suis obligé de laisser tomber tout ça. Obligé. Parce que ce n'est pas l'être. Vous voyez, si je dis que la qualité est l'être, ça c'est très important. Si je dis que la qualité est l'être, alors la quantité qui n'est pas la qualité, alors elle n'est pas de l'être. Si je dis que la qualité est l'être, donc si je mets égal à l'être, la relation n'est pas de l'être. Le lieu n'est pas. Toute catégorie, toute détermination est particulière. Toute détermination est limitée. Et l'être est beaucoup plus radical que tout cela. C'est déjà pas si mal, vous avez de faire cette première démarche. Hein. Vous allez dire, l'être, alors c'est le vide. Hein, on voit très bien comment Heidegger a fait ça. Parce qu'Heidegger a très fort senti ça. Pour lui, toutes ces déterminations sont les étangs. Et c'est vrai, toutes ces déterminations sont les étangs. C'est quelque chose qui est touché à la limite. Donc je ne peux pas m'arrêter à ça. C'est impossible de m'arrêter à cela. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-delà de la détermination? Est-ce que mon intelligence est capable de saisir quelque chose qui est au-delà des catégories? Ça, c'est la grosse, grosse question. Est-ce que mon intelligence est capable de saisir quelque chose qui est au-delà des catégories? Elle est capable de saisir ce qui est le sujet de toutes les catégories. Ça, oui. Et c'est ce qu'elle appellera, en bon aristotélisme, la substance première. C'est-à-dire Pierre. Pierre est au-delà des catégories, puisque toutes les catégories sont attribuées à Pierre. Pierre, Jacques, Jean, Joseph. Alors, Joseph peut être la substance première. Et on lui attribue la quantité et la qualité. Donc il y a un au-delà des catégories. Il y a quelque chose qui transcende les catégories. Et l'être est nécessairement au-delà des catégories. Donc, première démarche dans cette induction. Premier moment de cette induction. L'être est au-delà de toutes ces catégories. Je pourrais rester longtemps là-dessus. Hein. C'est relativement facile, ça. Je crois que tout le monde peut comprendre ça. Pour jauger ou vous en mettre. Tout le monde peut comprendre que l'être est au-delà des catégories et que l'être ne peut pas s'identifier à telle ou telle catégorie. Parce que si l'être s'identifie à telle ou telle catégorie, eh bien les autres catégories ne seraient pas l'être. Donc l'être est au-delà. Qu'est-ce qui est au-delà des catégories? Quelle est la première chose que je découvre au-delà des catégories, transcatégorial, c'est le sujet. C'est le sujet. Pierre, ce qu'on appellera la substance première. C'est la substance première. Alors, est-ce que l'être, c'est la substance première? Nouvelle question, vous voyez? Je suis en recherche, hein, comprenez bien. C'est pour ça que j'ai dit l'induction. Ne prenez pas l'induction. Un moment, oui, le dernier moment de l'induction, c'est l'éclair. C'est l'intelligence qui va le plus loin. Mais avant cela, il y a tout un aspect qui est très très important. C'est tout cet aspect négatif. Ce que je recherche, c'est l'être, et l'être n'est pas ces catégories. Et je crois que ça, c'est très important de bien situer ça, parce que ça aide beaucoup. Je renverse tous les obstacles. J'enlève tous les obstacles. J'arrive donc à me poser la question, est-ce que l'être, c'est la substance première? Je dis non. L'être ne peut pas être la substance première. Ah, c'est fameux. Hein? Parce que le dépassement de toutes les déterminations, ça va encore, c'est assez facile. Mais dire que l'être ne peut pas être la substance première, ça, c'est très important. Pourquoi l'être ne peut-il pas être la substance première? Parce que la substance première, c'est ceux qui restent au-delà des catégories comme sujet des catégories. Comme le sujet des catégories. C'est le sujet. Ce à quoi on attribue tout. Or, le sujet, puisqu'il est capable de recevoir toutes les attributions, il est donc ces non-déterminations. Le sujet, la substance première, elle n'est pas la quantité, elle n'est pas la qualité, elle n'est pas la passion, elle n'est pas l'action, elle n'est pas la relation. Autrement, elle ne pourrait pas les recevoir comme détermination. Donc, si elle n'est pas la quantité, et que j'identifie l'être et le sujet premier, je devrais donc dire que la qualité, c'est pas l'être. Je dis que la qualité n'est pas le sujet premier. Je dis que la quantité n'est pas le sujet premier, mais que la quantité et la qualité sont attribuées au sujet premier. Mais ils ne sont pas cela. Donc si j'identifie l'être et la substance première, c'est-à-dire le sujet, devrait dire que la qualité n'est pas être. Je ne peux pas le dire, puisque je viens de partir de là et j'ai constaté que ça fait partie des déterminations qui existent. Vous n'allez pas me dire quand même que mon nez n'existe pas, parce qu'il est qu'un figurant. Il existe, il fait partie de mon être. Vous n'allez pas me dire que mon intelligence n'existe pas, parce que ce n'est pas mon sujet. Non, mon intelligence existe, ma volonté existe, ça fait partie des déterminations de ma réalité, de mon individu. Alors, donc, c'est très important, parce que déjà, on est là, déjà là, ça me fait comprendre que mon intelligence est capable de dépasser ses déterminations, donc de dépasser ses formes, et que l'intelligence est capable de dépasser le sujet. Ou plus exactement, l'intelligence est capable de comprendre que l'être, c'est le lien et l'unité entre toutes ces formes et le sujet qui reçoit ces formes. Si je peux attribuer la quantité à Pierre, à ce sujet radical, c'est que Pierre existe et que la quantité existe par Pierre. C'est donc l'être qui le met dessus. C'est l'être qui fait le lien. Pas l'être copule, hein. Ça, c'est le point de vue du langage. Mais l'être existant, si le sujet n'existait pas, il serait incapable de recevoir la qualité de la qualité. Et il serait incapable de les identifier. Or, le sujet n'est pas l'être, la qualité n'est pas l'être. Et la condition sine qua non pour que le sujet puisse recevoir la quantité et la qualité, c'est l'être. C'est curieux. Ça me permet donc de découvrir que l'être, c'est ce qui fait, c'est ce qui permet d'unifier deux choses qui, pour moi, sont diamétralement opposées, ou qui sont pour moi les deux grands aspects ultimes de ma première connaissance, de ma première approche de la réalité, le sujet premier et les catégories. Les catégories, ce sont les formes, le sujet, un autre, le sujet, il existe. Alors, tous les deux existent, mais les formes existent grâce au sujet. Donc le sujet est quelque chose de plus radical. C'est par le sujet que je suis le plus proche de l'être. Je suis plus proche de l'être par le sujet que par la forme. Pourquoi ? Parce que la forme n'existe que grâce au sujet. Ça, c'est très intéressant. Parce que ça me montre que l'être est plus proche du sujet existant que des formes. Et si l'être est plus proche du sujet existant des formes, c'est donc ce sujet que je dois regarder de façon très particulière, sans le séparer des formes, mais en comprenant que je découvrirai le sujet à partir de ce sujet existant. Vous voyez bien, c'est des démarches successives. Hein, c'est important. Tout ça, c'est des démarches négatives. Ici, j'arrive à quelque chose de positif. C'est à partir du sujet existant, c'est-à-dire à partir de la substance première, que je vais essayer de saisir ce que c'est que l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être ? ce sujet existant. Je peux simplement constater qu'il existe. Et je peux me poser la question, comment est-il source de l'être pour toutes les autres catégories? Comment je peux dire que la quantité existe grâce au sujet, que la qualité existe grâce au sujet, que l'action existe grâce au sujet? Ça prouve que ce sujet possède en lui une source d'être. Autrement, je ne pourrais pas dire que c'est par ce sujet que la quantité existe, que la qualité existe. Oui, comment je puis arriver à découvrir le noyau sur lequel je vais insister le plus? Comment ce sujet qui existe, qui est source de toute l'existence des autres, c'est celui qui cache. Et c'est lui, donc, à partir duquel doit se dévoiler l'être. Alors, ça commence à comprendre, vous voyez, pourquoi Aristote dit cette petite phrase. Chercher le tiesti de la substance, ou chercher le tiesti de l'être, c'est la même chose. Là, vous en avez la preuve. Chercher ce qu'est la substance, et chercher ce qu'est l'être, c'est la même interrogation. Pourquoi? Parce que la substance, elle est primordialement dans le sujet. Tant que je n'ai pas découvert la substance au niveau métaphysique, la substance, c'est premièrement le sujet. Or, de fait, je vois bien, dans cette petite enquête que je viens voir, c'est au fond ce sujet existant qui est la chose importante à regarder. C'est en secouant ce sujet existant que je vais découvrir qu'il y a en lui